les podcasts d'AFDS.TV, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.TV, Sarah Sepulcre, Lise-Marie Cassard.
Elle est belle, chirurgien esthétique à Los Angeles. Elle revient dans la petite ville où elle a grandi pour le mariage de sa sœur. La ville s'appelle Providence et a donné son nom à une série qui a débuté en 1999. Lizzie a visité la ville pour nous. Bonjour Lizzie.
Bonjour Sarah. Alors en effet, Providence est une série américaine d'un peu moins de 100 épisodes répartis sur 5 saisons. Elle est diffusée sur NBC de 1999 à 2002. Lors de son lancement, la série arrive au bon moment dans la grille des programmes de la chaîne, à une époque où les séries de fiction et les sitcoms dominent l'écran. La série est créée par John Mazus, qui a déjà travaillé auparavant sur des programmes comme Les Anges du Bonheur par exemple. Cette série dramatique mêle humour et vie de famille à travers le regard d'une femme généreuse. Cette série est familiale avant tout parce qu'elle parle d'une famille tout simplement, les Hansen. On les voit vivre au jour le jour et raconter leur vie quotidienne. La simplicité de Providence a rapidement séduit les foules et elle s'est vue décerner déjà en 2000 le People's Choice Award pour la meilleure série dramatique télévisée. La série rencontre également un franc succès outre-Atlantique, en particulier grâce à Sydney, le personnage central campé par Melina Kanakaredes. D'origine grecque, l'actrice met tout son charme et son talent à défendre son rôle. Pour planter le décor, Providence raconte les mésaventures de Sydney Hansen, une chirurgienne plastique de renom, belle, riche et drôle, comme tu l'as dit Sarah. Elle vit à Los Angeles avec son petit ami Jerry. À l'occasion du mariage de sa sœur Johnny, qui attend un enfant, elle retourne à Providence, sa ville natale. Malheureusement, le jour de la cérémonie, Linda, la mère de Sydney, décède d'une crise cardiaque. On pourrait penser que Sid va rester quelque temps auprès de sa famille, étant donné les circonstances, mais pas du tout. Contre toute attente, elle décide de retourner à Los Angeles pour son travail. Et la surprise, en rentrant chez elle, elle découvre son petit ami sous la douche, accompagné d'un autre homme, en train de lui masser le dos. Le genre de surprise pas vraiment facile à avaler. Elle fait donc ses valises et retourne direct dans la maison familiale, définitivement cette fois-ci.
C'est une série qui débute un peu mal, quoi. Ça fait quand même deux mauvaises nouvelles en moins de 30 minutes.
Non, c'est clair, ça démarre direct. Elle se rend compte qu'à Los Angeles, elle passait à côté des vraies valeurs de la vie, puisqu'elle travaillait dans un milieu ultra superficiel, celui de la chirurgie esthétique. Et donc, à Providence, elle est revenue chercher les vraies valeurs de la vie.
C'est vrai qu'à Providence, de toute façon, elle vit complètement dans une famille pauvre, donc ça va vachement la changer.
Évidemment. Vu qu'un père vétérinaire, c'est quand même dur, hein.
Oui, elle vit vraiment pas bien à Providence.
Non, c'est difficile. De retour à Providence, elle assiste son papa vétérinaire, le docteur Jim Hansen, s'occupe de sa sœur Johnny qui élève seule sa petite fille Anna, ainsi que son petit frère Robbie, totalement immature.
En fait, il faut dire que sa sœur finalement a décidé de pas se marier avec
la
personne avec qui il était censé se marier.
Étant donné que sa mère est décédée, ils n'ont pas dit oui au moment opportun. Sa maman, bien que décédée, ne disparaît pas de la série, comme on aurait pu le croire. Elle débarque sans crier gare dans les rêves de Sydney pour lui donner des conseils, qu'elle le veuille ou non d'ailleurs, principalement sur ses amours.
Ça ressemble un peu à Six Feet Under, pour ceux qui ont vu la série. Là aussi, le papa revient, le papa qui était mort au début, revient hanter un petit peu la vie et l'esprit d'un de ses fils.
Parfois, Sydney donne l'impression d'être devenu en quelque sorte le nouveau chef de la tribu par sa volonté et sa détermination à protéger ceux qu'elle aime. Par contre, quand il lui arrive de rencontrer un homme ou lorsqu'elle perd un patient, c'est elle alors qui a besoin du soutien et de l'attention de sa famille. Les maîtres mots de la série sont l'amour, la famille, l'entraide, la volonté de faire un travail utile et bien évidemment la simplicité. Cette simplicité que Sydney trouve en revenant à Providence est en totale opposition avec la vie qu'elle menait à Los Angeles. Dans un des premiers épisodes, elle nous explique la définition du mot Providence dans le dictionnaire. Alors premièrement, c'est la capitale du petit état de Rhode Island et deuxièmement, c'est la sagesse qui gouverne le monde. Donc voilà, tout est dit dans la série. Providence représente la sagesse, la simplicité et l'enfance de Sid, tandis que Los Angeles représente la superficialité, la légèreté et le côté futile de la vie.
Bref, on est bien devant une série familiale du dimanche et pas du tout une série qui va nous bousculer les méninges comme le samedi soir, par exemple.
Ah non, pas du tout. C'est le stéréotype classique américain entre le bien et le mal. Enfin voilà. Chaque épisode dure environ 45 minutes et commence par un petit résumé des épisodes précédents. Dans ce résumé, Sydney explique rapidement ce qui se passe dans la vie de tous les membres de sa famille, en terminant par sa petite histoire personnelle. Alors c'est bien parce que ça nous situe où on en est dans la série, donc si on a loupé un ou deux épisodes, on sait tout de suite se repérer grâce à ces petits résumés. Ensuite, l'épisode commence réellement. La plupart du temps, il commence par un rêve de Sydney dans lequel sa mère apparaît en ouvrant violemment la porte. Je reviendrai plus tard sur les rêves de Sydney parce que c'est quand même une partie importante de la série. Enfin seulement arrive le générique. Donc la musique du générique est de Weegee's Nuffy Walden. Elle s'appelle You Make Me Home et est interprétée par Angelica Hayden. C'est une petite balade romantique. Alors le générique présente chaque personnage dans son milieu comme ça, hein, l'endroit où il travaille et ses passions. Les premières images représentent la ville de Providence, puis on voit Sydney dans un taxi. Et en fait, ça, c'est les images de la première ou deuxième épisode, quand elle revient à Providence, on reconnaît tout de suite. Puis ensuite, on la voit travailler à l'hôpital. Et ensuite, on voit le docteur Jim Hansen, regardant droit dans les yeux un petit chiot. Donc le vétérinaire préfère souvent la compagnie des animaux à celle de sa famille. Hein. Il adore les bêtes et on le voit tout de suite dès le générique. Apparaît ensuite Johnny qui s'occupe de sa petite fille Anna. Elle est tout le temps avec sa fille. Puis après, on nous présente Robbie, le petit frère, à moto et en train de jouer au basket, ce qui représente aussi bien son côté un peu immature. Et finalement, on voit Linda, la maman, qui entre vigoureusement dans la pièce, comme à son habitude aussi. On plante déjà le décor tout de suite. Enfin, le générique se termine sur la photo de famille prise juste avant le mariage, où la maman est encore vivante, et sur la maison familiale.
Je suis venue aussi vite que j'ai pu. Qu'est-ce qu'il y a ? Ils ont besoin de vous pour assister le chirurgien.
Je vais me préparer.
Vous n'avez pas le temps.
Quoi ?
Qui va m'assister pour l'anesthésie ?
Moi.
Il y a deux patients.
C'est pour une
transplantation ?
Mettez-les sous scope.
Qui fume ici ? C'est scandaleux !
Bonjour, chérie. Tu sais, la mort est un peu ennuyeuse à la longue, alors j'ai trouvé une occupation.
C'est toi, le chirurgien ?
Oui, et fais-moi confiance, tu vas adorer cette opération. Je vais procéder à l'ablation des aspects positifs de ton ex-petite amie Jerry. Et je les implante sur le nouveau prétendant au titre.
Non, mais tu rêves !
Mais non, ma chérie, c'est toi qui rêves. Regarde, Kyle, il est charmant, gentil, drôle, mais en revanche, Jerry est ambitieux. Je vais y mettre bon ordre. Tout le monde en place ? Lame de 10. Tu es prête à cautériser.
C'est délirant, Sydney, ne la laisse pas faire, on ne peut pas changer la personnalité des gens. Acceptez-les tels qu'ils sont.
Il a raison, et en plus, la greffe ne serait pas compatible. L'ambition d'un agent à l'intérieur d'un chauffeur de limousine, ce serait sa mort.
Le jeu en vaut la chandelle. Mais si toi, tu ne veux pas de cette opération, j'obtempérerai. Sid.
On fait comme t'as dit.
Oh. D'accodac. Bon, une première incision. Qu'est-ce qui se passe ?
Tu as sectionné une artère.
Oh, et c'est mauvais.
C'est très mauvais, le cœur ne bat plus. Oh non, Kyle aussi.
Oh, celui-là, je ne l'ai même pas touché.
Il a dû faire une réaction allergique à l'anesthésie. Sid, on est en train de perdre.
Vite, une ampoule d'adret.
J'ai un peu de soda light.
Changez. Kyle ! Kyle ! Free Kyle ! Kyle ! Maman, qu'est-ce que t'as fait ?
Je vais les perdre. Je vais les perdre tous les deux.
Alors, un petit tour par les personnages principaux.
Ouais, oui, donc la réussite de la série est due aussi aux personnages auxquels on s'attache très vite et aux relations entre les personnages. Donc, Providence montre l'intimité d'une famille où on fait le point sur la journée vécue au travail. Chacun se confie aux autres et pourtant, souvent, ils oublient de se dire des choses un peu essentielles. La phrase « on ne me dit jamais rien à moi » revient fréquemment. Par exemple, lorsque Sid, au tout début, revient à Providence pour le mariage de sa sœur et découvre que Johnny est enceinte de près de 8 mois quand même. Hein. Tout le monde avait oublié de prévenir Sid. Voilà. Donc, il faudrait un peu plus de communication dans la famille, je ne sais pas. Pourtant, la vie des Hansen n'a rien d'un long fleuve tranquille, comme on le voit, vu qu'il y a la mort de la maman, enfin, plusieurs catastrophes comme ça dès le départ. Bon, il y en a d'autres aussi. Hein. Tout d'abord, il y a Robbie, le fils, qui accumule les dettes de jeu. Robbie est joué par Seth Peterson, qui ressemble à s'y méprendre à Jason Presley. Son personnage, Robbie, accumule les magouilles en tout genre. Il adore gagner de l'argent facilement et il s'empêtre dans des histoires un peu difficiles. mais souvent son père et ses sœurs sont là pour lui sauver la mise. Trager invétéré, il tombe souvent amoureux et c'est un vrai cœur d'artichaut. Il est resté un grand enfant qui a souvent besoin d'être assisté, il a un peu la Tanguy attitude dont on parle beaucoup maintenant, il n'assume rien, il a envie de rester à la maison, ça c'est sûr. Ce qui le rend très sympathique, c'est aussi son humour, plutôt ironique, il doit tenir ça de sa mère. Vient ensuite Johnny, la fille cadette, qui est mère célibataire. C'est Paula Cale qui interprète ce rôle. Au début de la série, Johnny a peu confiance en elle. Elle demande souvent des conseils à sa sœur, en ce qui concerne sa fille, surtout la petite Anna. On sent qu'elle a été fort perturbée par la mort de sa mère, qui, faut-il le rappeler, est quand même décédée le jour de son mariage. Elle reproche souvent à Sydney, sa sœur, de ne pas toujours savoir quoi faire et bien la conseiller. Johnny est quelqu'un de très franc et a un petit côté naïf, donc ce qui fait qu'elle ne réfléchit pas toujours avant de parler, ce qui la rend vraiment craquante et souvent très très drôle. Elle est honnête et a une belle force de caractère, elle est très très attachée à sa famille.
Ce qui m'a toujours marqué moi avec ce personnage, c'est le jeu extrêmement gestuel de l'actrice. Elle fait toujours des grimaces, des grands yeux, des grands sourires.
Ouais, elle est très très nerveuse comme ça, oui. elle est marrante quoi. Johnny, au départ, est l'assistante de son père dans le cabinet vétérinaire et après son accouchement, elle se lance dans la cuisine. Le personnage du docteur Jim Hansen est interprété par Mike Farrell, qui jouait le capitaine B.G. Honeycutt dans la série MASH entre 1975 et 1983, pour ceux qui connaissent.
MASH est quand même une série importante dans les années 70. Pour la petite histoire, si vous vous souvenez, dans Urgence, il y a eu un docteur plus ancien qui revenait, un ex-professeur de Carrie Weaver. Il avait lui-même joué dans cette série-là. Il jouait un docteur qui était atteint d'Alzheimer petit à petit. Enfin bref.
Jim ne parle pas beaucoup, c'est quelqu'un de calme et posé. Il préfère la compagnie des animaux à celle de sa famille, comme j'ai déjà dit. Il arrive à leur parler et je crois qu'il les comprend mieux que les humains en fait. Très marqué par le décès de son épouse, il lui faudra du temps pour se permettre de sortir avec d'autres femmes. Le rôle de Linda, la maman, est tenu par Conchita Tomei. Je parlerai plus longuement de ce personnage à la fin de l'émission. Ce que j'apprécie dans la série, c'est que tout ne se termine pas bien. Il ne faut pas oublier que Providence est une série dramatique. Les scénaristes ne sont pas tendres avec les téléspectateurs, ils n'hésitent pas à tuer certains patients de Sydney auxquels le public s'est attaché, ou encore à rompre une des nombreuses relations amoureuses de Sid alors qu'on trouvait justement qu'ils formaient un si joli couple. Le meilleur exemple est l'histoire de Lily, une jeune fille de 16 ans sans abri, que Sid rencontre à la clinique pour une consultation. En fait, la jeune fille va rouler Sydney pour lui voler des médicaments dans la pharmacie. Finalement, Sydney va la prendre sous sa coupe et lui pardonner et va essayer de placer la jeune fille, Lily, dans une famille d'accueil. Mais celle-ci fugue parce qu'elle n'accepte pas la pression des parents comme ça et Sid la retrouve juste avant qu'elle ne prenne un bus pour quitter l'État. Elle lui propose alors de venir vivre sous le toit des Hansen. Lily va être dans la série pendant une dizaine d'épisodes à vivre chez les Hansen et ensuite mourir dans un tragique et spectaculaire accident de voiture. Donc même des personnages qui prennent quand même de l'importance dans la série peuvent mourir sans qu'on s'y attende et ça, je trouve ça assez intéressant.
Mais même dans les personnages principaux, puisque la petite sœur, par exemple, à un moment devient un peu alcoolique dans les derniers épisodes. Donc on voit quand même des choses qui ne sont pas nécessairement très jolies dans d'autres séries peuvent arriver ici à des personnages principaux.
Ouais, ouais, c'est ça, c'est intéressant, je trouve. Alors voilà, bon, j'ai un peu présenté en détail chaque personnage, mais j'ai quand même oublié le principal. La série doit bien sûr sa réussite à la formidable interprétation de Melina Kanakaredes, qui campe le rôle de Sydney. Le gros problème de ce personnage, c'est qu'elle ne peut s'empêcher de s'impliquer terriblement dans la vie de ses patients. Elle est quelqu'un de très honnête et a le cœur sur la main, elle est d'une générosité sans faille. Sid vient souvent au secours des paumés, des œuvrés pauvres et orphelins. Et comme le dit Johnny, Sydney ne vit que pour aider. D'ailleurs, sa mère, dans un de ses nombreux rêves, emmène Sid à une réunion des Saints Anonymes, en référence bien sûr aux alcooliques anonymes pour ceux qui n'auraient pas compris. Le but de cette réunion est qu'elle se défasse de son envie irrépressible de venir au secours de gens qui ne lui ont absolument rien demandé.
Dépêche-toi, Sydney. Tu vas te mettre en retard pour ta réunion.
Quelle réunion?
Ici.
Bonjour. Et bienvenue à notre réunion. Je suis Michael. Quel est votre nom?
Sydney Hansen.
Bonjour, Sydney Hansen.
Sydney, aimeriez-vous faire une déclaration pour votre arrivée?
À propos de quoi?
Eh bien, peut-être pourriez-vous nous dire pourquoi vous voulez rejoindre les Saints Anonymes.
Maman?
Oui, ils sont là pour t'aider à arrêter de secourir tout le monde.
Mais enfin, de quoi tu parles?
Le premier signe d'un problème, c'est...
Le désaveu!
Je n'ai jamais désavoué quoi que ce soit!
C'était inscrit en toi que tu devais sauver cette fille, cette Lily.
Elle a besoin de mon aide!
Oh. Sydney, est-ce qu'elle vous a demandé de l'aider?
Non, pas tout à fait. C'est seulement une enfant.
Enfants, lépreux, chiens, tous les mêmes.
Des nécessiteux!
Nous étions tous des intoxiqués. Si vous commencez à les aider, ça peut très bien durer toute la vie. Nous n'enseignons pas une douzaine de méthodes comme d'autres organisations. Nous avons une approche très simple.
Ah oui, qu'est-ce que c'est?
Seulement...
Stop! 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 Stop!
Stop! Stop!
Stop!
Stop.
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 Alors justement, les valeurs judéo-chrétiennes, elles sont portées par Sid, mais sa mère, elle est toujours en train de lui reprocher quelque part de porter ça.
Bah oui, bah parce qu'elle essaye que sa fille arrête un peu toujours de culpabiliser pour plein de choses, de pas venir en aide aux gens, etc. Et justement, la trouvaille géniale du scénario de Providence, c'est le retour de Linda, de la maman, qui vient toujours mettre son grain de sel dans les rêves de Sid. Et c'est une manière pour que Sidney se remette en question, quoi, en fait. Et quand elle se réveille, ben, elle y réfléchit inévitablement. Et Linda, la maman, elle ne peut s'empêcher de se mêler de la vie de ses rejetons. Parce que parfois, dans les rêves de Sidney, il y a aussi Johnny qui vient, qui débarque, Robbie. Et la maman explique un peu à Sid comment essayer d'aider ses frères et sœurs. Donc, avec humour et finesse, on voit que Providence est une satire, justement, de ces grands enfants incapables de couper le cordon ombilical, vu que la maman vient toujours aider encore Sidney dans les rêves. Donc, c'est toujours l'effet Tanguy dont je parlais tout à l'heure. Et les trois enfants sont comme ça, ils quittent pas le cocon, ils ont besoin des conseils de la maman, etc. Et après la mort de la maman, justement, la famille se transforme. Sid prend en quelque sorte la place de sa mère, elle dirige un peu la tribu comme le faisait Linda. D'ailleurs, Robbie en a envie puisqu'il demande à sa sœur de la couver en lui préparant son petit-déj, par exemple. Enfin, vraiment jouer la maman mère poule comme faisait sa mère. Et le papa Jim se retrouve très très seul et Sid essaye toujours de l'aider le mieux qu'elle peut en parlant avec lui, en l'écoutant et en lui remontant le moral. Ce que les frères et sœurs font pas spécialement. C'est vraiment Sid qui porte la famille, qui est un peu le moteur au départ. Et elle remplace aussi sa maman dans le sens où les parents deviennent un peu Jim et Sid, les adultes responsables de la maisonnée. Et Robbie et Johnny qui restent toujours les enfants, qui font encore des erreurs, qui se plantent toujours et qui demandent des conseils et qu'il faut toujours un peu sauver à la dernière minute. Pourtant, même si Sidney paraît adulte, on verra plus tard dans la série qu'elle peut aussi commettre des erreurs, notamment dans son travail. On voit aussi une sorte de parallèle, enfin moi j'ai un peu trouvé ça, entre le travail de Sidney et le travail de son père. Elle est médecin, il lui arrive de passer des nuits entières au chevet de ses patients, comme elle l'a fait avec la petite Lily. Et Jim aussi prend son métier très à cœur et s'attache rapidement aux animaux qu'il reçoit en consultation. Il lui arrive aussi de passer des journées entières avec des chiens, de leur parler, etc. Une fois, il est resté une nuit avec un bulldog toute la nuit. Celui-ci déprimait car son maître est décédé et il en est mort de chagrin. Et Jim est resté à son chevet en lui expliquant que lui aussi savait ce que c'était de perdre son compagnon, donc la maman. C'est toujours des parallèles comme ça. Il y a quand même beaucoup de points communs entre les deux médecins. Mais alors maintenant, je vais revenir enfin au rêve de Sidney que vous attendez tous avec impatience. Donc elle rêve beaucoup et il est facile de comprendre quand on sort de la réalité puisqu'inévitablement, sa maman débarque une cigarette à la main. Alors qu'elle avait normalement arrêté de fumer étant donné qu'elle était cardiaque. Elle apparaît toujours habillée comme lors du mariage de Johnny, qui est aussi le jour de sa mort. Les rêves de Sidney sont la plupart du temps de grands délires sur ses relations amoureuses. Ses petits copains y apparaissent, parfois sa sœur. Sid culpabilise souvent pour beaucoup de choses et ça se voit dans ses rêves. Ses rêves reflètent les soucis et les fantasmes de Sidney la plupart du temps. Sa mère, Linda, utilise souvent l'ironie et il y a de nombreux jeux de mots du type « Non mais je rêve là !» et la mère débarque en disant « Mais oui ma chérie, tu rêves !» Et donc là, le scénariste joue vraiment avec le téléspectateur et il explique tout ce qui se passe au téléspectateur. Tout est clair pour tout le monde.
Oui, d'ailleurs, quand sa maman l'énerve, il y a Sid qui dit « Bon, maintenant, je vais me réveiller. »
On sait très bien où on en est, quoi. Hein. Et Sid règle souvent ses comptes avec sa mère dans ses rêves et lui dit des choses qu'elle n'aurait jamais osé lui dire. Et il y a de bonnes réparties, quand même. C'est assez sympa. Et justement, c'est ce que j'adore là-dedans, c'est l'opposition qu'il y a entre le quotidien un peu difficile... de Providence, les sujets traités sont des sujets comme la maladie, la mort, les ruptures amoureuses, enfin c'est tout le temps comme ça. Il y a les problèmes de jeu de Robbie, le deuil que Jim n'arrive pas à faire, Johnny qui éduque seule sa fille, c'est difficile, et heureusement, il y a les rêves de Sid qui permettent un peu d'aérer la série, de mettre un côté un peu plus léger, d'un côté farfelu, qui est en fait beaucoup plus sympa, très déjanté, très farfelu. Maintenant, je dis déjanté, farfelu, c'est pas comme dans Animagnabile non plus, où il y a des effets spéciaux, on ne verra jamais dans Providence, dans les rêves de Sid, un bébé virtuel en train de danser et janter sur des airs de Barry White. Ça reste quand même très terre-à-terre. Même si Sid peut s'imaginer devenir Cendrillon ou Juliette embrassant Roméo sur le balcon de Vérone. Hein, ça arrive encore aussi bien. Et puis, il faut jamais oublier qu'en fond de scène, il y a la maman qui met toujours son petit grain de sel quand il faut pour anéantir les fantasmes de Sidney au bon moment.
Mais c'est Roméo et Juliette avec la marâtre au milieu, en gros.
Exactement. On entend en fond les petites remarques piquantes de maman qui sont toujours assez sympas. Linda pourrait vraiment... passer pour une peste, une mêle-tout. Pourtant, dans certains rêves, elle conseille vraiment sa fille. Hein. Elle permet à Sydney d'avancer et de mieux comprendre certaines situations par la suite. Donc les scènes avec la maman dans le monde des rêves permettent vraiment au scénariste une très très grande liberté. Ce qui est très chouette parce qu'il peut faire apparaître ou disparaître n'importe qui d'un coup de baguette magique. Hein. Ça arrive souvent que Sydney soit déguisée en petite magicienne et fasse apparaître son petit ami, etc. La maman peut faire aussi revivre à Sydney des moments de son passé pour justement l'aider dans le présent. Et on peut aussi nous montrer les soucis ou fantasmes inconscients de Sydney. On peut voir Sid à l'hôpital, dans son milieu médical, et en même temps ses amoureux débarquer, avec bien sûr en chef d'orchestre, Linda.
Et c'est là-dessus que nous deux on se quitte. Merci beaucoup. Oui,
merci
à
beaucoup,
la prochaine.
Sarah. Oui, à la prochaine, au revoir.
Retrouvez aux frontières des séries sur le web. www.afds.tv.